Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez comme chaque vendredi pour notre émission de 20 minutes en direct avec un élu du Mantois. Et en cette fin de semaine, je suis en compagnie de Jamel Nedjar, maire de Limay depuis 2021. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Ensemble ce matin, nous allons parler de différents sujets tels que les annonces faites par le gouvernement à l'encontre des collectivités, les travaux faits dans la ville ou encore la ligne nouvelle Paris-Normandie. Je vous propose de commencer par ce sujet brûlant qui a particulièrement heurté les élus locaux. Le gouvernement a annoncé dans son projet de budget 2025 demander un effort de 5 milliards d'euros aux collectivités locales. Et une semaine avant, la Cour des comptes suggérait de supprimer 100 000 postes dans les collectivités territoriales. Comment vous avez pris ces annonces ?
Bah écoutez, c'est un vrai scandale ce qui est en train de se passer. Encore ce matin, l'annonce du gouvernement de la suppression des 4000 enseignants, comme si on en avait trop dans nos écoles. Je rappelle qu'à Limay, la rentrée a été particulièrement difficile. On a eu des enseignants qui ont manqué dans plusieurs de nos écoles. Donc c'est une vraie difficulté pour nous en tant qu'élus locaux qui sommes dans la réalité, au contact des parents. Donc pour nous, effectivement, cette doctrine qui est imposée par l'État de rendre responsables les collectivités territoriales de la dette est un pur scandale. Je vais être très clair, les collectivités votent des budgets à l'équilibre depuis des années, ce qui n'est pas le cas de l'État, puisque ça fait 50 ans que l'État n'a pas voté son budget à l'équilibre.
L'équilibre, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de dette.
Absolument. C'est-à-dire que si on peut emprunter, on peut avoir des dettes, mais quand on vote un budget, il faut que les dépenses soient équivalentes aux recettes. Et donc, bien sûr qu'une collectivité peut emprunter, comme l'État. Par contre, on doit mettre en face des dépenses, des recettes. Donc, nous sommes obligés de voter un budget à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc, le déficit, il est creusé par l'État depuis des années. Bruno Le Maire, qui a été le ministre de l'économie depuis 7 ans, a montré du doigt les collectivités qui sont en réalité pas responsables du déficit. Je rappelle juste une chose, c'est que depuis l'avènement du président de la République, en 2017 au gouvernement, il y a eu 60 milliards d'exonérations d'impôts pour les entreprises. C'est ces mêmes 60 milliards qu'on demande aujourd'hui et en partie aux collectivités territoriales. Donc ce qui est pour nous un pur scandale, et un certain nombre de collectivités et d'associations de collectivités ont vivement réagi à cette annonce qui montre une fois de plus du doigt les collectivités qui œuvrent au quotidien pour éduquer, accompagner les plus fragiles sur nos territoires, aussi bien dans les cantines, à l'état civil, au cadre, dans l'entretien des rues au quotidien, notamment pour préserver notre cadre de vie. Donc pour nous, c'est éminemment important de pouvoir continuer à le faire en tant que maire et en tant que collectivité.
L'État a la possibilité de vous imposer de supprimer des postes ?
Bah écoutez, l'État, vous savez que verse des dotations chaque année, donc il semblerait que les dotations ne seront pas, si j'ai bien compris les dernières annonces, concernées. Alors on demande confirmation, puisque si on a eu effectivement cette première annonce sur la DGF au niveau de la DSU, qui est une dotation de solidarité urbaine que touchent les communes les plus fragiles, aujourd'hui on n'a pas d'éclaircissement, on n'a pas de précision, donc on ne sait pas si l'État va encore réduire les dotations. Je veux dire simplement une chose sur la question des dotations, c'est qu'à Limay, par exemple, il y a 10 ans, on percevait 4 millions d'euros de dotations de l'État. Aujourd'hui, on en perçoit 1,8 million. Donc, les collectivités ont déjà participé à cet effort au titre du redressement national, comme il a été dit depuis maintenant 2007. Hein, c'est l'avènement de Nicolas Sarkozy et la mise en place de ce qu'ils ont appelé la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui a fait en sorte que les dotations de l'État vers les collectivités n'ont jamais cessé de diminuer. C'est le cas à Limay, hein, on a perdu plus de la moitié de notre dotation, et aujourd'hui, les collectivités qui doivent faire face à l'inflation, qui doivent faire face à toutes les dépenses que l'État décide, notamment sur les questions de masse salariale, puisque il faut savoir que l'augmentation du point d'indice, l'augmentation du SMIC, le déroulé de carrière aussi des fonctionnaires pèsent sur les budgets des collectivités. On estime à peu près à 3% d'augmentation, ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité. 3%, compte tenu que les collectivités doivent voter leur budget à l'équilibre, et ben il faut aller chercher des économies ailleurs. Donc en réalité, le travail qui est réalisé par chacune des collectivités est un travail important qui est fait sur le non-remplacement, par exemple, des fonctionnaires à la retraite, bah, systématiquement, les collectivités se posent la question si c'est utile ou pas de remplacer. Donc, ce travail d'économie est déjà réalisé par les collectivités parce qu'ils ont la responsabilité de voter un budget à l'équilibre. Donc, je ne vois pas bien comment l'État vient faire la leçon aux collectivités sur ce sujet-là.
Pour que chacun puisse bien comprendre, vous avez parlé de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Elle vous est versée pour quoi exactement ? À quoi il sert ce financement ?
Alors, il s'agit en fait d'une dotation qui permet à l'État de financer les collectivités sur un système de péréquation en fonction d'un certain nombre de critères. Voilà. C'est vrai que cette dotation peut-être, doit être, à mon sens, rediscutée puisque les critères de versement aux collectivités n'ont pas évolué depuis plus de 20 ans. Alors, il faut comprendre ce mécanisme qui est parfois un peu technique, mais simplement en deux mots, c'est que ces DGF, le mode de calcul se fait en fonction des indicateurs de richesse ou de pauvreté que la collectivité dispose sur son territoire. Et parmi ces indicateurs-là, il y avait ce qu'on appelle le potentiel financier, le potentiel fiscal, qui est en fait un indicateur qui permet de mesurer la capacité des collectivités de prélever l'impôt sur son territoire. En gros, l'État dit aux collectivités « prélevez plutôt l'impôt sur votre territoire au lieu de nous demander des dotations ». Et donc, c'est ce qu'on appelle le potentiel financier, sauf que cet indicateur pouvait être une réalité il y a 10-15 ans quand on avait les quatre taxes, c'est-à-dire avec la taxe professionnelle et la taxe d'habitation, sauf que depuis la suppression de cette taxe-là, ce potentiel financier et fiscal n'est plus un indicateur de richesse pour un territoire. Sauf que ça compte encore dans le calcul des dotations. Ce qu'on considère, c'est que les revenus moyens par habitant est un véritable indicateur de richesse et c'est ce qui doit permettre davantage de calculer la dotation. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous trouvez normal qu'une commune comme Le Vésinet touche plus de dotations de l'État alors que sa population est plus faible que celle de Limay ? C'est pas normal. Nous touchons 1,8 million, je l'ai dit tout à l'heure, de dotations pour une population à Limay, on a à peu près 17 800 habitants. Le Vésinet, c'est 15 000 habitants et touche 1,9 million de dotations. Est-ce que vous pensez que la population du Vésinet serait plus pauvre que celle de Limay ? Je ne le crois pas. Donc il y a peut-être un travail de réflexion sur la péréquation, la manière dont la DGF est calculée, pour permettre aussi à des collectivités plus fragiles de pouvoir en bénéficier davantage. Mais en aucun cas, les grandes masses doivent être diminuées, puisque tout simplement, c'est aussi les communes qui ont cette fragilité, qui ont de plus en plus de fragilité, puisque effectivement, avec l'inflation pour les habitants, il y a de plus en plus d'habitants qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et ben pour toutes ces communes, effectivement, il est hors de question de voir les dotations diminuer.
Justement, comment se situe Limay par rapport aux revenus médians ?
Et ben écoutez, Limay fait partie effectivement des villes parmi les plus pauvres du département des Yvelines. On est 5e ou 6e, c'est-à-dire que quand vous avez fait Mantes-la-Jolie, Trappes, Les Mureaux, Chanteloup, vous avez Limay, Mantes-la-Ville. Donc on est effectivement dans ces communes les plus fragiles. Donc pour nous, effectivement, la dotation de l'État est plus qu'importante. Ce qui nous permet aussi, bien entendu, de verser des salaires, ce qui nous permet de chauffer nos écoles, de chauffer nos gymnases, de permettre aussi de la péréquation et d'aider les plus fragiles sur notre territoire. Nous avons effectivement des dépenses sociales qui sont certainement plus importantes à Limay qu'au Vésinet. Donc voilà, c'est aussi pour nous une dotation qui permet d'être une recette de fonctionnement pour nos collectivités qui sont plus que vital pour la survie de nos territoires.
Vous le disiez donc, l'État accompagne finalement de moins en moins les collectivités, voire même reporte parfois les charges sur les collectivités.
Absolument, absolument, et on le constate tous les jours. Je vous prends plusieurs exemples. En la matière, l'État n'a jamais cessé de se décharger sur les collectivités territoriales. À Limay, nous avions connu par exemple la trésorerie qui a fermé il y a 2 ans. Derrière, les services de l'État nous ont proposé la Maison France Service. Mais en réalité, elle ne prend en charge qu'un tiers des dépenses liées à la Maison France Service, puisqu'ils nous financent un seul poste, nous en avons mis 3, et les locaux sont hébergés par la commune. Donc là, c'est typiquement des services de l'État qui ferment et qu'on reporte sur les collectivités avec une prise en charge très partielle qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est ce qui est en train de se passer, je le constate aussi dans d'autres communes, à Mantes-la-Jolie avec la suppression de la poste de Gassicourt notamment, où certainement l'État va proposer une Maison France Service. Et donc forcément, ce n'est pas équivalent pour les habitants. Et je vois qu'un certain nombre d'habitants se mobilisent. Nous, c'est ce que nous avons fait il y a quelques années à Limay pour sauvegarder la poste de Limay, hein, qui était menacée. Donc nous avons réussi à gagner ce combat-là. Mais pour nous, c'est important aussi de bien mesurer le report de l'État sur les collectivités. On a parlé des maisons France Services. On pourrait parler aussi des maisons de santé qui ne cessent de se multiplier sur nos territoires, tout simplement parce qu'on pallie aux carences de l'État. Hein, c'est quand même la mission de l'État d'organiser l'offre de soins sur un territoire. C'est pas une compétence des collectivités. Et ben aujourd'hui, vous avez de nombreuses collectivités comme l'IME, comme ce que nous avons fait, qui construisent des maisons de santé et qui mettent à disposition des médecins, souvent à titre gracieux, pour leur permettre de pouvoir s'installer sur les communes, puisque aujourd'hui, beaucoup d'administrés ne trouvent plus d'offres de soins, ne trouvent plus de médecins généralistes pour pouvoir se soigner. C'est une question de santé publique dont les mairies et les maires se sont saisis. Tout simplement parce qu'il y avait une carence de l'État. Donc quand j'entends aujourd'hui des diminutions des services publics, c'est clairement un scandale, parce qu'aujourd'hui, qui peut dire qu'il y a trop de fonctionnaires quand on regarde l'état de nos écoles, quand on regarde l'état de l'hôpital, quand on regarde l'état de la justice, quand on regarde l'état de nos forces de l'ordre. Donc c'est un vrai sujet de savoir à quel moment on se dit stop, basta, revenons à l'essentiel, revenons aux services publics qui sont le garant de l'équité de traitement de l'ensemble des usagers. Comme on dit souvent, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas.
Finalement, moins de fonctionnaires, c'est donc moins de services.
Absolument, absolument. C'est automatique. Le fait de supprimer des fonctionnaires va fortement dégrader les services à la population. Et qui va en pâtir? Ce sont les plus fragiles. Prenons un exemple. En matière d'éducation, il est clairement, et l'annonce de ce matin vient conforter cette idée, cette doctrine de l'État qui consiste à orienter les parents vers l'école privée. C'est-à-dire, on fait reposer une charge publique vers une charge privée uniquement pour ceux qui peuvent se la payer. Et donc, pour nous, c'est un vrai souci de savoir comment on continue d'assurer, de réduire les inégalités au sein d'un territoire quand on a une société qui vit à deux vitesses différentes. Et donc, pour nous, c'est complètement illusoire cette doctrine qui consiste à dire on va réduire le déficit en supprimant les services publics.
Quelle pourrait être du coup la solution? Parce qu'on comprend bien du coup où est le problème, mais quelle pourrait être la solution?
Bah, écoutez, je pense que la solution a été en partie donnée par les électeurs lors des dernières élections législatives, où je rappelle quand même que le NFP est arrivé en tête des élections législatives.
Le nouveau Front Populaire,
le nouveau Parti Front de Populaire qui a eu le plus de députés. Lucie Casté, qui viendra à l'IME d'ailleurs le 18 octobre, était la personne la plus à même de pouvoir porter une politique différente autour des services publics, vous l'avez compris, sauf que Emmanuel Macron a confondu le verbe nommer le Premier ministre avec le verbe choisir le Premier ministre. Il n'avait pas à choisir le Premier ministre, il devait nommer Lucie Casté à la tête de ce gouvernement pour un changement de politique. Écoutez, on est passé dans les urnes à un front républicain qui a été souhaité par les électeurs, à un front anti-NFP au sein du gouvernement. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, la démocratie a été bafouée et il est grand temps de revenir à plus de services publics, à avoir une politique en rupture avec celle qui a été menée. Quand on regarde l'état de nos écoles et qui va s'accentuer encore avec l'annonce de ce matin, ça fait 7 ans que la politique libérale d'Emmanuel Macron est au pouvoir. On peut quand même évaluer et se dire si ça fonctionnait ou pas au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, on n'a jamais eu une rentrée aussi difficile à l'IME avec nos écoles. Donc ça montre bien qu'il y a derrière ça une doctrine très claire qui consiste à faire en sorte qu'on oriente davantage les parents dans les écoles privées. D'ailleurs, les parents me l'ont dit à la rentrée. Ils m'ont dit, monsieur le maire, nous, on était attachés au service public. Mais très concrètement, aujourd'hui, on est bien obligé et contraint d'aller dans le privé. Et donc ça, c'est un vrai problème pour nous, parce qu'effectivement, ça accentue les inégalités au sein de notre territoire.
Vous pouvez aussi être accompagné, aidé financièrement par la région et le département?
Oui, alors bien sûr, on, dans le cadre de nos projets, on sollicite nos partenaires, notamment la région et le département. Bon, il se trouve que le département est dans une situation très fragile. Je sais que vous avez pu y revenir à votre micro à plusieurs reprises. La situation des départements est très critique. Donc forcément, il y a un retrait sur un certain nombre de projets puisqu'ils n'arrivent pas tout simplement à faire face du fait de la baisse des ventes. Donc c'est pour nous un sujet. Et puis la région, effectivement, qui est aussi un acteur important pour nous et qui devrait aussi davantage être présent sur l'IME. C'est ce qu'on essaye de faire. même si ils ont un peu plus de mal à nous accompagner sur nos projets. En tout cas, pour nous, c'est un sujet dont j'ai prévu d'aborder avec la présidente de région prochainement sur la capacité de la région à nous accompagner sur des projets. Mais ça reste ponctuel sur des projets.
Ce n'est pas une dotation, vous voulez dire ?
Absolument, ce n'est pas une dotation, c'est une subvention, mais ça reste ponctuel et une subvention qui ne permet pas le financement de la totalité des projets. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça grève la possibilité des collectivités à porter le reste à charge, et notamment des communes, le reste à charge qui est souvent autour de 30% pour sortir des projets, puisque tout simplement, si vous avez plus de dotation, si vous avez plus de recettes, c'est compliqué de pouvoir continuer à investir sur un territoire. Je rappelle que les collectivités, c'est la première puissance d'investissement public sur un territoire. Et bien sûr que toutes ces décisions vont aussi contraindre l'économie autour de la commande publique, puisque forcément, si les collectivités ont moins de moyens, les collectivités vont moins investir, et donc il y aura moins de travail et moins d'emplois sur nos territoires.
Et des dispositifs à aller chercher, vous venez d'ailleurs d'en renouveler deux ?
Oui, absolument. Alors, effectivement, on travaille avec le dispositif Cité éducative, qui est pour nous un dispositif qui fonctionne plutôt bien, qui permet effectivement de pouvoir mener un certain nombre d'actions autour des écoles qui sont classées en REP sur notre territoire, et ce qui permet effectivement de faire des choses qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas le dispositif Cité éducatif. Donc pour nous, c'est un sujet éminemment important, qui est en cours de renouvellement. Et nous avons aussi un très beau jumelage que nous avons mené avec l'Opéra Comique, avec un très beau spectacle qui a été joué sur Limay et sur les planches de l'Opéra Comique avec des Liméens. Donc ça a été une très belle aventure et nous allons renouveler ce dispositif, peut-être sous une autre forme de coopération, mais en tout cas ce qui permet effectivement de pouvoir avoir d'autres horizons et avoir cette ouverture culturelle qui est nécessaire et qui est important, et notamment pour les élèves qui sont dans des écoles plus fragiles.
En quelques mots, on va aussi faire un petit point sur les travaux. Le plus visible, en tout cas pour ceux qui traversent Limay, qui vivent à Limay, c'est la rue Nationale.
Oui, absolument. La rue Nationale est notre artère principale. C'est un peu la vitrine de la ville, donc qui a subi de lourds travaux depuis maintenant plusieurs mois. Donc la rue a été réouverte à la circulation à la fin de l'été. Il y a encore quelques compléments à réaliser qui seront opérés durant les vacances de la Toussaint, avec la reprise des plateaux. Puisqu'effectivement des plateaux sont prévus pour faire en sorte d'améliorer la sécurité et les traversées piétonnes et réduire la vitesse surtout. Donc voilà, les plateaux vont être refaits puisqu'ils n'étaient pas tout à fait aux normes, les rampants n'étaient pas assez prononcés, c'était pas assez dissuasif pour diminuer la vitesse. Et puis on va aussi refaire le revêtement au-dessus du plateau pour lui donner une couleur différente, pour permettre aussi pour les automobilistes d'avoir un effet visuel qui les ferait ralentir. Donc effectivement, c'est une opération menée par la communauté urbaine GPSO avec qui nous travaillons en étroite collaboration et qui nous permet effectivement de faire en sorte à ce que cette rue principale soit rénovée. Et je crois que le résultat est plutôt réussi puisque effectivement, les habitants me disent le plus grand bien de cette rénovation tant attendue.
Un autre sujet sur lequel vous tenez à pouvoir vous exprimer, c'était cette ligne nouvelle Paris-Normandie qui fait tant parler dans les élus.
Oui, absolument. La LNPN, vous savez que c'est un projet qui a nécessité beaucoup de discussions depuis des mois. Simplement vous dire que la question du devenir de la gare de Mantes-la-Jolie est une question qui concerne tous les habitants du Mantois. Pour nous, il est indispensable que les directs Mantes-Paris-Saint-Lazare puissent perdurer. Je le dis très clairement, l'attractivité du Mantois, son offre de logement, son développement économique ne tient que par la présence des directs, que Éole ne sera jamais compensé si on perdait les directs. Ça, il faut se le dire, et c'est très clair pour nous. En tout cas, tous les maires du Mantois se battent pour conserver les directs entre Mantes et Paris. La difficulté aujourd'hui, c'est que le projet LNPN ne prévoit pas d'arrêt à Mantes-la-Jolie, en tout cas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté la motion contre le projet de LNPN. Maintenant, il faut aussi se prémunir des représailles des élus normands qui ne souhaitent pas que la LNPN s'arrête à Mantes, qui pourraient très bien décider demain de supprimer les directs, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Ça fait depuis des années qu'il y a de moins en moins de directs entre Mantes et Paris. Donc on se doit, nous aussi, de travailler, de réfléchir sur quelle solution alternative, si la LNPN ne se fait pas, avec un arrêt à Mantes, pour permettre aux habitants du Mantois de pouvoir conserver ces directs qui permettent de rejoindre Paris-Saint-Lazare de 30 à 35 minutes. Il va y avoir des sillons qui vont se libérer par rapport à la ligne J qui aujourd'hui va à Paris-Saint-Lazare, demain disparaît puisque Éole va prendre sa place, Éole ira à Haussmann et n'ira pas à la gare Saint-Lazare. Et ben, ces sillons qui vont être libérés, si la LNPN ne se fait pas, il faudrait que ces sillons servent à la région pour remettre des directs entre Mantes, Bonnières peut-être, Rosny éventuellement, pour aller jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Tout simplement parce que moi je suis convaincu que le statu quo n'est pas une solution, tout simplement parce que les directs risquent de disparaître dans un avenir proche et qu'il nous faut se mettre autour de la table, il faut réunir les conditions avec nos collègues normands pour voir dans quelle mesure on pourrait sortir par le haut de cette affaire. Donc après cette étape de contestation qui est utile et nécessaire, puisqu'effectivement ce projet n'est pas acceptable en l'état, mais on se doit aussi de se revoir et de se réunir pour voir quel projet peut être pensé sur cette ligne LNPN qui intègre les besoins du Mantois.
Notre émission touche maintenant à sa fin. On l'a dit, vendredi prochain, une réunion publique va donc être proposée. Mais lundi soir aussi, l'association Solidarité Interpeuple, ce sera à 19h à la salle Christiane Faure.
Absolument. Donc, c'était encore une initiative que nous portons sur la situation au Proche-Orient et vous savez l'actualité dramatique que nous connaissons sur cette région du monde qui est la cause de beaucoup de problèmes, y compris dans nos quotidiens. Et donc, effectivement, pour nous, c'est important de pouvoir mener des conférences sur cette thématique. Et donc, Christophe Oberlin sera présent lundi soir à Limay dans le cadre d'une conférence sur Gaza, 20 ans de blocus, un an de génocide, qui sera organisée à la salle Christiane Faure lundi soir à 19h. Et puis, vous l'avez dit, vendredi 18, donc meeting avec Lucie Casté, organisé par notre député Benjamin Lucas, pour effectivement faire en sorte à ce qu'on puisse préparer un avenir meilleur et surtout aussi penser et réfléchir sur la manière dont ce gouvernement pourrait infléchir la politique qui est actuellement menée et qui va droit dans le mur.
Et ensuite, un peu plus tard dans la saison, mais en tout cas la fin de l'année approche, la troisième édition de Lumières Diverses qui permet de soulager un peu et de penser un peu plus légèrement.
Oui, absolument, avec cette actualité très lourde. On essaie aussi de donner un peu de joie de vivre aussi à nos habitants. Et donc, effectivement, il y aura la troisième édition de Lumières d'hiver qui sera organisée en cette fin d'année autour du marché de Noël, autour de festivités, sur les décos de Noël. Donc, je donne rendez-vous aussi à ces Liméens pour aussi avoir des moments de partage. Alors, les Liméens, mais pas seulement, aussi des habitants du Mantois, puisque on a aussi d'autres habitants qui viennent participer à nos festivités. Et donc, effectivement, je donne rendez-vous à tous ces habitants pour pouvoir discuter et échanger sur la situation politique, bien sûr, mais sur aussi la manière dont on peut améliorer leur quotidien. Et c'est pour nous important, et c'est un travail important qu'un maire doit mener dans sa commune.
Et vous pouvez déjà prendre les dates, ce sera les 13, 14 et 15 décembre prochains. Ce sera le mot de la fin. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur notre site internet ppmlaradio.com ainsi que nos précédents Rendez-vous Vendus de Mantois. J'en profite pour remercier la technique sans qui cette émission en direct ne serait possible. Très bonne journée à l'écoute de BPM.
Les Rendez-vous du Mantois, tous les vendredis de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.